Nous sommes en 1399, au nord du Deccan, une région montagneuse de l'Inde centrale. L'invasion de Tamerlan, le chef de guerre venu de l'actuel Ouzbékistan, crée un chaos sans précédent, jusqu'à faire tomber le sultanat de Delhi. Une multitude de réfugiés fuient les massacres et prennent la route à pied vers le sud. Ils sont un certain nombre à avoir trouvé refuge à Gwalior, une forteresse de grès rouge juchée en haut d'un plateau rocheux, à 300 km environ de Delhi. Ces hommes et femmes viennent se mélanger à une population diverse, de confession hindoue, jaïne et parfois musulmane. À l'écart de cette agitation, un copiste du nom de Mahmoud Chaban est en train de terminer une œuvre unique. Un Coran qui abrite en un même livre des textes et des décors hétéroclites, jamais assortis de cette façon auparavant. À l'arrière du livre, en guise de signature, il écrit un colophon, c'est-à-dire un récapitulatif. Je m'appelle Mahmoud Chaban et j'ai fini de copier ce Coran dans la forteresse de Gwalior en l'an 801 de l'Hégire, soit en l'an 1399 de notre ère. Mahmoud Chaban l'ignore, mais ce Coran va intriguer des générations de chercheurs et faire le tour du monde. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut national d'histoire de l'art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs partagent avec moi leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne.
Et puis ce Coran, à la fin, dans ses pages finales, a quelque chose alors là qui me laisse complètement dépourvu au début. C'est une sorte de table. Il y a toutes les lettres de l'alphabet qui sont données. Alors vous avez le alif, le ba, le ta, etc. Tout l'alphabet arabe. Et on explique au alif que si vous prenez le Coran, que vous l'utilisez de telle ou telle manière, vous l'ouvrez au milieu et que vous choisissez la troisième ligne et que vous vous arrêtez à la lettre alif, dans l'avenir, il vous arrivera telle ou telle chose, vous serez protégé. Généralement, des très bons augures où il faudra faire attention à telle ou telle autre chose, etc. Donc, on m'explique comment utiliser le manuscrit coranique à des fins divinatoires. Je le découvre le jour où je l'ai en main, je le vois pour la première fois, et je ne sais pas quoi en faire. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'en ai eu plein des manuscrits coraniques entre les mains dans ma vie auparavant, plein. Et moi, là, je n'ai jamais vu ça.
Et vous avez tenté de suivre les instructions de divination ?
Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. C'est vrai d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. L'objet m'impressionnait tellement que je n'ai pas osé l'utiliser pour moi-même. Mais quelle idiote !
Héloïse Braque de la Perrière est historienne de l'art, spécialiste des mondes de l'islam. En 2008, elle est une des premières chercheuses à demander à voir le Coran de Gwalior. Comme pour beaucoup de manuscrits islamiques, ce précieux Coran appartient à une collection privée, en l'occurrence celle du prince Sadruddin Aga Khan, décédé quelques années plus tôt. La chercheuse en a vu des images et des citations dans des articles, mais cela ne suffit pas à effectuer des recherches.
La première fois que j'ai vu le Coran de Gwalior, c'est tout à fait particulier. Je l'ai vu au Port Franc de Genève. C'est un lieu où sont entreposés des objets d'art en transition. C'était le cas là, puisque c'était après la mort de Sadruddin Aga Khan et cet objet devait partir ailleurs. On n'avait pas encore décidé où se ferait le musée. On m'attendait à la gare de Genève. On m'a accompagnée dans une sorte d'énorme entrepôt avec des portes qui s'ouvraient les unes après les autres, une sorte de coffre-fort. Puis je traversais ces couloirs, je me souviens, j'étais complètement fascinée parce que il y avait des œuvres d'art qui étaient tellement grandes qu'elles étaient, on les avait entreposées dans les couloirs. Et là, on m'a fait entrer dans une première pièce qu'on a fermée à clé, une deuxième pièce qu'on a fermée à clé, et puis on m'a fait asseoir. dans une petite pièce et on m'a dit on va chercher le courant de Gwalior. On l'a posé devant moi et on m'a dit allez-y, vous pouvez travailler sur le courant de Gwalior. Je me suis dit mais il est tout petit. C'était très étrange, ça correspondait pas du tout à l'idée que je m'en faisais. Or, dans tous les ouvrages que je voyais, ces dimensions étaient mentionnées. Et je pense qu'on est tous pareils, on a tous les spécialistes des manuscrits, ce qu'on appelle les codicologues, on a besoin de toucher les manuscrits pour les comprendre. Bien sûr, il y a la qualité du papier qu'on peut voir de cette manière, la qualité des encres. Les couleurs ne donnent jamais, jamais, jamais la même chose en reproduction. Ce courant, il m'intrigue tout de suite, parce qu'il a un décor fascinant. On n'est pas dans l'enluminure telle qu'on peut la trouver au même moment ailleurs dans le monde islamique, celle aussi que vous pourriez imaginer plus classique, dorée, avec des décors assez fins. Ces décors ont quelque chose de... le trait est plus gras. Surtout, cette polychromie qui est tout à fait étonnante. Les couleurs sont très nombreuses, ou en tout cas semblent très nombreuses, elles sont très vives. Il n'y a aucune continuité. À chaque fois, un nouveau motif est repris, il est décliné d'une manière assez étonnante. On a des fleurs de lotus, on a beaucoup de décors végétaux.
Ces décors végétaux luxuriants ornent les têtes de chapitres de l'ouvrage. Mais le texte à l'intérieur des chapitres est tout aussi intrigant. Il est réparti dans des cadres imbriqués les uns dans les autres. À la marge, il y a des commentaires, en persan, la langue parlée par les érudits musulmans en Inde à l'époque. Au centre, en arabe, on trouve le texte du Coran lui-même, dans une calligraphie qui paraît étrange à la chercheuse.
Cette calligraphie, elle me parle parce qu'elle est différente, parce qu'elle ne correspond pas aux critères esthétiques de la calligraphie arabe classique. Elle semble, elle n'est pas. Maintenant, aujourd'hui, je le sais. Mais à l'époque, elle semble maladroite. Elle semble pataude et elle ne répond vraiment à aucun critère de la calligraphie islamique classique qui est extrêmement normée. La calligraphie semble s'écraser sur la ligne de base de l'écriture alors que normalement elle s'élève. Le trait a l'air assez irrégulier. Les mots s'écrasent, s'embrouillent les uns les autres. Ils semblent se bousculer à d'autres moments et ils sont étalés sur la ligne comme si on les avait dispersés de manière complètement aléatoire. Je ne comprenais pas du tout.
Par le contenu de ses pages principales, ce Coran de Gwalior est donc déjà, en soi, une curiosité. Et c'est sans compter le mystérieux manuel de divination qui se trouve dans les pages finales, avec la table alphabétique et les prédictions correspondantes.
Et donc déjà, tout ça, ça me suffit à comprendre que j'en viendrai pas à bout toute seule. Je le comprends très très vite, ça. Ça fait appel à trop de choses en même temps. Je me dis, oulala, oulala, je pense aux deux ou trois personnes dans mon entourage qui pourraient m'aider à comprendre ce que j'ai sous les yeux. Il y a mon directeur de thèse, Yves Porter, qui m'a guidé vers l'Inde des sultanats, pour lequel j'ai le plus grand respect, et je me dis, bon, il faut que je lui en parle.
Au départ, rien ne prédestine Héloïse Braque de la Perrière à l'étude des manuscrits de l'Inde médiévale. Elle est étudiante en littérature française du 19e, quand son chemin croise celui d'Yves Porter.
J'avais grandi en Afrique du Nord, en Algérie. Mais je n'avais pas du tout fait des études d'arabe. Et puis un jour, j'avais envie de me remettre à l'arabe, que je parlais déjà bien. Et donc, je me suis inscrite à la Sorbonne. Parmi tous les cours qu'on nous proposait, il y avait des cours de M. Yves Porter, justement, sur l'Inde des sultanats.
Dans ce cours sur l'architecture de l'Inde des sultanats, l'étudiante est marquée en particulier par les images des palais abandonnés de Mandou.
Des paysages extraordinaires, des paysages vallonnés, des restes, des vestiges de palais immenses, superbes, des canaux dessinés au sol pour rafraîchir les espaces. Et ces petits canaux qui se promènent à l'intérieur des palais sont serpentins et dessinent des formes. Ce raffinement, c'est quelque chose qui n'a pas été exploré, contrairement à l'Inde moghole. L'Inde moghole, on la connaît bien. Il y a le Taj Mahal, c'est ce qu'on voit dans les expositions. C'est... Mais là, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a quelque chose d'un peu romanesque, certainement, qui est dans mon esprit de jeune fille. Et je m'imagine déjà là-bas. Et donc, je vais voir Yves Porter et je lui dis un jour, je me souviens, je veux absolument travailler avec vous. Est-ce que vous m'acceptez comme étudiante? Et je lui dis très fièrement, vous savez, moi, je parle arabe. Et il me dit, ben non, ça ne m'arrange pas parce que moi, je suis un spécialiste du monde indo-persan. Si vous voulez travailler avec moi, il faudra apprendre le persan et vous reviendrez. Et c'est ce que j'ai fait.
Héloïse Braque de la Perrière apprend donc le persan à l'Institut des langues orientales, avant de se lancer dans une thèse sur les images dans les manuscrits de l'Inde des sultanats. Elle réalise pour l'occasion son premier terrain, c'est-à-dire son premier voyage d'études.
J'arrive pas à expliquer. C'est de l'ordre de la sensation. Il y a les odeurs, il y a les bruits, il y a justement la couleur qui est tellement importante pour comprendre la peinture des sultanats. Je rentre, je prends toutes mes notes parce que j'ai toujours écrit sur des bouts de carnet. Hein. J'ai des dizaines de bouts de carnet dans mes placards. J'ai mes planches à diapo, j'ai tout ce matériel dans tous les sens et je vois à quel point j'ai déjà changé.
Et la forteresse de Gwalior, alors vous y êtes allée?
Gwalior, si vous allez en Inde, vous voyez une très belle forteresse. Vous avez vraiment un goût de la période médiévale très puissant quand vous êtes sur place. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que vous avez énormément de grottes avec des sculptures qui sont des sculptures Jaina. Donc, on est aussi dans un contexte qui n'est pas islamique.
Le Jainisme est une religion née en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle prône en particulier la non-violence et la tolérance, et elle est peut-être à l'origine de la traditionnelle cohabitation des religions sur le territoire indien.
J'ai découvert qu'il y avait des artistes Jaina, donc de la communauté Jaina, qui avaient travaillé avec des artistes musulmans, ou peut-être même qui avaient contribué à la fabrication des Corans. Et on a d'ailleurs dans les livres des rituels Jain des motifs qui sont directement importés du monde islamique. On n'est pas dans l'idée d'une influence de l'un sur l'autre. Tout ça est circulaire, tout ça est brassé et ça ne pose a priori pas les problèmes que nous nous posons aujourd'hui.
Ce brassage des cultures explique sans doute les décors et les motifs uniques du Coran de Gwalior. Mais pas sa calligraphie particulière, qui porte le nom incongru de Bihari.
Une calligraphie, c'est une boucle plus ou moins sous la ligne. C'est un arrondi, plus ou moins incurvé. Vous voyez, c'est une hampe qui grimpe plus ou moins haut. C'est une dent plus ou moins marquée. C'est un nombre de petits détails qui est reproduit et qui permet de dire, bon, ça, c'est la même calligraphie. Bihari, ça ferait référence à la région du Bihar, dans l'Inde orientale. On n'est pas loin du Bengale, vous voyez. Gwalior, c'est beaucoup plus du côté occidental. Pourquoi le premier Coran, le plus ancien, qui est daté, qui proviendrait de cette région, serait en Bihari si le Bihari émerge dans le Bihar?
Cette calligraphie dite Bihari, Héloïse Braque de la Perrière ne trouve aucun spécialiste qui l'ait étudié. Car les experts de la calligraphie arabe se tournent avant tout vers la calligraphie dite classique, celle qui a été normée par des maîtres calligraphes dans la région de Bagdad, au cœur du monde islamique.
Je me souviens qu'à l'époque, je discute avec un de mes collègues qui est un spécialiste de la calligraphie, et lui, spécialiste de la calligraphie mamelouk. On prend un café ensemble et je lui dis « Qu'est-ce que t'en penses, toi, de mes calligraphies ?» Et il me dit « Qu'est-ce qu'elles sont moches, comment tu peux travailler là-dessus » Et j'étais très vexée, mais en même temps, j'avais pas beaucoup d'arguments puisque j'avais jamais travaillé sur la calligraphie. Et je pense là, pour la première fois, parce que j'entends ce « elles sont moches ». Et justement, je me pose pour la première fois la question « mais c'est quoi la norme ? Pourquoi ?» Et ça va pas, ce qu'il me dit. Cette calligraphie, elle est choisie pour copier un Coran. On va pas choisir quelque chose qu'on trouve moche. Et pas un Coran où on s'épuise à faire des frontispices tout plus inventifs les uns que les autres, où on a visiblement, en tout cas, on s'est appliqué. On a quand même voulu faire quelque chose de grande valeur. Et pourquoi on aurait choisi cette calligraphie-là?
Pour tenter d'esquisser une réponse à cette question, Héloïse Braque de la Perrière décide de faire venir le Coran de Gwalior à Paris pour le montrer à ses collègues chercheurs.
Ma grande fierté, c'est que je sors de ma thèse, je travaille sur des manuscrits dont tout le monde se fiche. Je clame haut et fort que là, il y a une production extraordinaire. qu'il faut retravailler là-dessus parce que ça avait intéressé des chercheurs quelques années auparavant, dans les années 50, 60. Et j'ai fait venir à la Bibliothèque nationale de France parce que j'ai demandé à ce moment-là, le Coran allait partir au Canada. La directrice du musée au Canada m'a contactée et elle m'a dit, si vous voulez, avant que le Coran ne quitte le continent, je vous fais venir le Coran à Paris. C'est moi qui le transporte. Et comme ça, les chercheurs vont pouvoir voir cet objet. Et quand j'y pense, c'est assez marrant, parce que là, je suis en train de me dire, ce Coran, en fait, il est parti d'Asie, il est arrivé en Europe et il est parti en Amérique. C'est quand même un objet toujours fantastique.
En mai 2012, le Coran de Gwalior a donc été exposé pour les chercheurs à la Bibliothèque nationale de France, puis à l'Institut national d'histoire de l'art. Autour du Coran de Gwalior, Héloïse Braque de la Perrière monte un groupe de chercheurs qui mettent en commun leurs découvertes et leurs savoirs sur cet univers colossal qu'est le monde islamique. Un monde qui s'étend de l'Espagne à la Chine sur 13 siècles de l'histoire.
On répète, faute de temps, de moyens consacrés, de recherches à ce sujet, des choses qui ont été dites au début du XXe siècle. Et donc on va dire peinture arabe. Mais qu'est-ce que ça veut dire la peinture arabe? Ça veut rien dire. Si on voulait vraiment parler de peinture arabe, on parlerait de la peinture de la péninsule arabique. Mais il n'y a pas de peinture dans la péninsule arabique. Alors ça veut dire quoi? C'est tous les lieux où on parle arabe? Ça peut être aussi bien l'Afrique du Nord que la Syrie ou que l'Irak. C'est une aberration pour un historien de l'art. On sait bien que stylistiquement, ça ne veut rien dire. Ben parce qu'on n'est pas arrivé à travailler sur ces objets correctement. Mais pour travailler sur ces objets, mais il faut tellement de personnes pour les comprendre. Donc pour ça, il faut que je trouve des chercheurs que cela amuse ou que cela intéresse. Et c'est comme ça que se constituent mes équipes de recherche. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec beaucoup plus de moyens qu'il y a 15 ans. Mais l'idée, elle est toujours un peu la même.
En élargissant ainsi son spectre de recherche, Héloïse Braque de la Perrière a identifié d'autres Corans, moins anciens et moins décorés que celui de Gwalior, mais avec la même calligraphie.
En fait, j'avais littéralement ouvert un dossier sur mon bureau dans lequel je disposais tout ça au fur et à mesure en me disant « c'est intéressant, mais je ne sais pas très bien encore quoi en faire ». J'ai découvert d'abord quelques pages d'autres Corans qui étaient écrits dans la même écriture, qui comportaient dans leur marge les mêmes lectures canoniques, présentées de la même manière, c'est-à-dire avec des cadres imbriqués les uns dans les autres. Beaucoup de ces manuscrits sont dans un état déplorable, donc il n'y a pas les pages finales, mais que pour certains, il y avait aussi un livre de divination finale, chose qui est très rare, et qu'il y avait le même jeu sur les écritures, c'est-à-dire que c'était toujours du bihari qui était utilisé pour le texte coranique, et que c'était très souvent une autre écriture qui s'appelle le Nasri Divani, donc une autre calligraphie, qui était utilisée pour le reste, je me suis dit, là, on est au sein d'une communauté qui prépare des manuscrits qui sont destinés à être vendus, donnés, mais qui sont utilisés dans des contextes précis, pour des personnes précisément. Et au début, j'ai trouvé une dizaine de feuillets. Ensuite, j'ai consacré mon habilitation à diriger les recherches à ces manuscrits, et aujourd'hui, j'en ai plus de 200. J'ai trouvé des Corans, donc beaucoup de Corans en Inde, et tout à coup, je me rends compte que j'ai d'autres Corans en écriture bihari, d'abord au Yémen. Je commence à me dire, mais pourquoi j'ai un Coran bihari au Yémen? Et puis après, je vois que j'ai un Coran bihari en Éthiopie. Et puis je vois que j'ai un Coran bihari en Asie du Sud-Est. Et je comprends, avec des formes de bihari qui ne sont pas l'écriture originelle, mais qui sont issues du bihari. Et là, je comprends qu'il y a une filiation. J'émets l'hypothèse que des diasporas soufis, des communautés soufis, qui ont traversé les mers, aussi bien dans la partie orientale de l'Inde, parce qu'on a beaucoup de traces de ces départs et de ces installations vers l'Asie du Sud-Est ou vers l'Afrique, en passant par le Yémen, et apportées, emmenées, exportées avec elles, à la fois cette calligraphie, mais tout ce que cette calligraphie veut dire, c'est-à-dire une manière d'utiliser certains manuscrits coraniques.
Le soufisme est une pratique mystique de l'islam, qui prône non pas l'étude des textes, mais l'élévation spirituelle par la transformation intérieure du croyant. Depuis le XIIe siècle environ, les rites du soufisme sont transmis dans le cadre de confréries. Et ces confréries étaient particulièrement présentes dans les régions du monde où l'islam n'était pas majoritaire, comme en Inde par exemple. Mais alors à Gwalior, il y aurait eu une communauté soufie ?
Il est possible, on le sait parce que les textes le racontent, que justement un des chefs d'une confrérie soufie, un mystique donc, s'installe dans la forteresse de Gwalior, exactement à cette période. Donc, mais c'est une hypothèse, rien ne le dit dans le manuscrit concrètement. Ce Coran, il a peut-être aussi été commencé à être fabriqué à Delhi et pris dans les bagages du saint au moment de son exode vers le Deccan. Et peut-être qu'il a été achevé par le copiste lors de cet exode et lors de leur séjour qui a duré plusieurs mois à Gwalior. C'est une hypothèse. Peut-être aussi qu'à ce moment-là, ce haut personnage et son copiste et les personnes de sa suite qui finissaient ce Coran sur place ont aussi souhaité le faire enluminer et ont fait appel à ce moment-là à des artistes Jaina en leur montrant ce qui se faisait ailleurs dans le monde islamique. Ce qui donne ce côté assez étonnant du Coran, très multiforme, cette espèce de Coran qui a l'air d'être un catalogue iconographique de choses qui n'ont rien à voir et qui sont mises côte à côte. Ça ressemble à ça.
Cette hypothèse de l'usage de la calligraphie biari par les soufis est d'autant plus soutenue par la chercheuse que la calligraphie biari se retrouve aussi sur d'autres objets, et en particulier sur des vêtements sacrés, appelés chemises talismaniques.
Ce sont des chemises portées, on ne sait pas très bien, mais on pense durant les batailles ou dans des contextes de maladie, donc pour protéger. Elles sont entièrement recouvertes du texte coranique dans son intégralité, dans une écriture absolument minuscule, qu'on appelle le roubari, c'est une écriture qui fait moins de 2 mm. Et surtout, ces chemises talismaniques, alors elles ont deux grands médaillons sur la poitrine, disposés de la même manière que certains médaillons marginaux des Corans biari, et ils ont exactement la même palette de couleurs. Et ils ont également une bordure, et dans cette bordure, il y a les 99 noms de Dieu qui sont inscrits. Et ils sont inscrits en biari. Donc, on a un lien direct entre ces Corans biari et ces chemises talismaniques. C'est-à-dire que ces Corans, on leur a attribué, c'est sûr, un caractère apotropaïque très fort. C'était ils protégeaient.
Un objet apotropaïque, c'est un objet qui conjure le mauvais sort, une sorte de porte-bonheur. Et c'est peut-être aussi le rôle que jouait le Coran de Gwalior avec son livre de divination. Cette hypothèse, en apparence anecdotique, remet en question toute une hiérarchie.
Les exemples indiens sont les plus anciens, donc ils seraient probablement précurseurs. Donc on aurait là, et ça change beaucoup de choses pour nous en histoire de l'art, parce que ça, vu qu'on a toujours considéré que l'Inde islamique était une sorte de sous-produit de l'Iran, ça oblige à réviser notre regard. Il y a eu des choses qui sont nées au cœur de ce monde indien et qui ont ensuite ont été diffusées dans l'intégralité du monde islamique.
Depuis son étude du Coran de Gwalior, Héloïse Braque de la Perrière traque les manuscrits orphelins qui semblent être rangés dans la mauvaise catégorie ou porter la mauvaise étiquette. Parmi ses recherches récentes, il y a par exemple les manuscrits arabes des fables de Kalila et d'Imna, des fables du IVe siècle qui ont inspiré, entre autres, La Fontaine. En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, elle a monté une équipe pluridisciplinaire internationale autour des manuscrits.
On en est encore au stade dans l'histoire de l'art islamique où il faut mettre sur la table tout le matériel et apprendre à le réétudier. Et cesser de dire que ce que l'on voit dans les vitrines des musées, c'est l'art islamique, ce n'est pas seulement ça. Très loin de là. Ça fige notre perception scientifique des choses et c'est inexact historiquement. Et donc, ça me pose un problème. Et donc, j'essaie de travailler sur les objets qui, pour différentes raisons, esthétiques, historiques, de documentation, etc., parce qu'ils sont dans des collections privées, parce que tous ces objets qui sont les oubliés de l'histoire de l'art, islamique en tout cas.
Pour faire avancer la recherche sur les calligraphies aux frontières du monde islamique, et notamment la calligraphie biari, Héloïse Braque de la Perrière a monté un consortium de 23 chercheurs et 6 calligraphes professionnels qui étudient tous les calligraphies arabes non normées.
Nous interviewons les quelques rares calligraphes qui pratiquent encore ces calligraphies très particulières des frontières. Nous en avons identifié en Afrique subsaharienne, au Mali, tout particulièrement en Chine. En Inde, c'est fini. Il n'y a plus de calligraphes qui pratiquent le bihari. J'arrive à les lire, mais il y en a qui sont plus difficiles à lire. Par exemple, il y a certaines formes de calligraphie en alphabet arabe chinoise qui s'inspirent de la calligraphie chinoise. Par exemple, l'écriture ne va pas être disposée sur la ligne à l'horizontale, elle va être disposée à la verticale. Mais c'est de l'écriture arabe. Vous voyez, ça aussi c'est fantastique parce que là on le voit concrètement que l'importance du milieu régional, des autres communautés, des autres peintres, des autres artistes.
Héloïse Braque de la Perrière prépare aujourd'hui un livre sur la calligraphie bihari avec Monique Burezi, documentaliste au Musée du Louvre, et Nouria Garcia-Massip, maître calligraphe, en parallèle de son rôle de conseillère scientifique à l'Institut National d'Histoire de l'Art. C'est la fin de la troisième saison de La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Ce podcast est un travail d'équipe, à la musique et à la réalisation, Théo Boulanger. Guillaume Auguet a composé la musique du générique. À la production, Alessandra Danelli. À la coordination de la production, Victoria Le Bolloc Salama. À la direction de la recherche de l'INHA, France Nerlich et Juliette Trey. Merci à Éric Dechasset, Marie-Laure Moreau, Jean-Baptiste Costa de Borgard et tous les chercheuses et chercheurs interviewés pour leur confiance. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des notes et des commentaires.